Je suis vraiment réjoui d'avoir entendu le témoignage d'Ola, qui fréquente notre église depuis 2-3 mois maintenant. Et c'est beau de voir l'action du Seigneur. Nous voulons poursuivre ce matin dans l'épître de Jacques. Nous allons lire tout à l'heure le début du chapitre 4. Mais avant cela, j'aimerais commencer en disant simplement qu'en tant que chrétien, nous vivons souvent un paradoxe. D'une part, nous annonçons un évangile de paix, de pardon, de réconciliation. Et par ailleurs, nous sommes parfois pris dans des conflits personnels, familiaux, voire ecclésiaux. Nous vivons des confrontations larvées, il y a des luttes de pouvoir, il y a des déchirements dans les familles, il y a des incompréhensions entre les jeunes et les vieux. Et on pourrait se demander, mais est-ce que l'évangile n'a pas de répercussions sur notre manière de vivre les uns avec les autres? Est-ce que l'évangile n'a rien à dire sur notre vie quotidienne, sur notre vie de famille, sur notre façon de vivre en Église? Et ce matin, nous allons parler de cette thématique qui est parfois douloureuse, du conflit. Douloureuse parce que les conflits ne sont pas toujours bien gérés, parce qu'il y a des perdants, parce qu'il y a des blessés, il y a des laissés pour compte. Et parfois, les chrétiens sont tentés de mettre la tête dans le sable, à jouer à l'autruche et à faire comme s'il n'en avait rien vu, comme si le conflit n'existait pas. Mais je crois que fuir le conflit, c'est ne jamais le surmonter et donc s'y retrouver tôt ou tard confronté, peut-être avec encore plus de violence. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler de ce thème du haut de ma hauteur de pasteur, du haut de ma chair, comme quelqu'un qui aurait tout compris et qui aurait tout résolu, mais j'ai plutôt envie de vous parler en étant un frère avec vous, un frère qui est en chemin, aux côtés de ses frères et sœurs. Je pense à cette parole de Jésus qui dit que nous sommes souvent tentés de voir la paille qu'il y a dans l'œil de notre frère, et je suis comme celui-là, qui souvent voit la paille dans l'œil de mon frère et qui ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Je suis souvent amené à penser que s'il y a un problème, c'est la faute de l'autre ou la faute des autres, mais sans doute pas de moi. Alors je forme le vœu ce matin que, à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien nous puissions nous mettre en route, que cette parole nous transforme, que cette parole agisse dans nos vies pour que nous entrions dans une transformation des conflits, afin que la grâce de Dieu surgisse. Et encore un mot avant que nous lisions le chapitre 4. J'ai déjà lu maintes fois l'épître de Jacques, mais je ne m'étais jamais rendu compte à quel point toute l'épître, finalement, peut être lue au travers du prisme du conflit. Et quand vous pensez que Jacques a pour motivation principale dans sa lettre de traiter de la question du conflit, tout prend un éclairage nouveau dans cette lettre. Tout devient compréhensible, il y a un fil rouge. Jacques cherche à résoudre des problèmes de conflit en Église. Je suis frappé qu'on oublie si facilement Jacques. J'ai consulté plusieurs livres chrétiens qui parlent de la question du conflit. Aucun d'eux n'évoque Jacques. Et pourtant, je crois que Jacques a quelque chose à nous dire ce matin. Alors nous allons lire ensemble Jacques chapitre 4, les 10 premiers versets, je lis dans la version du Semeur. « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Et voici ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera, et il vous relèvera. Jacques n'avait pas fait d'études de psychologie. Il n'a pas non plus un master en gestion des conflits. Et pourtant, il évoque dans le texte que nous venons de lire des éléments que l'on retrouve aujourd'hui dans des théories de psychologie, dans les sciences humaines. Il parle de désir insatisfait. Et lorsqu'un désir ou un besoin n'est pas satisfait, nous risquons bien de tout faire pour obtenir la chose que nous désirons. Mais Jacques nous demande, pourquoi vos besoins ne sont-ils pas satisfaits ? Une des racines des conflits, et Jacques l'évoque, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une attitude d'autosuffisance où l'on pense avoir toujours raison, où l'on a toujours besoin de tout justifier pour prouver à l'autre qu'il est dans son tort. Et l'orgueil provoque généralement un esprit critique qui va jusqu'au point de pouvoir ridiculiser l'autre, le rabaisser. Jean Calvin parlait du péché de dénigrer. Et avec cet esprit critique, l'orgueilleux n'a d'autre but que de satisfaire son propre besoin. Peu importe le besoin de l'autre, ce qui compte, c'est que j'arrive à mes fins. Et le fond du problème, nous explique Jacques, c'est le péché. Il faut qu'on laisse Dieu entrer dans notre vie, nous transformer et nous purifier. Et Jacques, dans ce texte, nous explique que la réponse aux conflits, à leurs racines, est de nature spirituelle. Alors on va voir ça tout à l'heure ensemble. Mais il m'est arrivé un jour d'être en conflit avec un responsable d'une autre région linguistique qui était la mienne. Donc nous étions tous deux responsables d'une association et lui venait d'une région beaucoup plus majoritaire, avec beaucoup plus de moyens financiers, de moyens humains. Et j'estimais pour ma part que nous étions vraiment péjorés. Nous étions traités comme si nous ne valions rien, que nous étions laissés de côté en tant que minorité. Donc j'ai voulu défendre les intérêts de mon groupe, revendiquer mes droits au nom d'une certaine justice. Et un jour, je reçois un téléphone de la part du président national, président de mon collègue et de moi-même. Il me téléphone et me demande si j'avais déjà pris le temps une fois de me mettre dans la peau de mon collègue et d'essayer de ressentir ce que lui pouvait ressentir. Alors, il s'est permis de faire l'exercice avec moi, à voix haute, et il m'a dit tout ce que mon collègue pouvait ressentir dans cette situation conflictuelle. Et je vous avoue que ça a changé mon regard sur la situation. Et ça m'a interpellé sur mon manque d'humilité aussi. L'humilité, ce n'est pas s'écraser ou s'aplatir devant les autres. On le croit parfois quand on lit un peu mal les textes bibliques qui parlent de renoncer à soi ou de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Ce n'est pas ça l'humilité. Mais l'humilité, c'est aussi considérer les besoins des autres. Et Jacques nous dit, prenez conscience de votre misère, pleurez-en, abaissez-vous devant le Seigneur. Et il vous relèvera. Eh bien, quelques années plus tard, mon collègue a quitté ses fonctions, moi-même aussi. Les successeurs de mon collègue ont pris officiellement la parole dans une assemblée générale et ont demandé pardon pour l'attitude arrogante du groupe majoritaire. Voyez comment Dieu peut parler, finalement, sans que nous ayons à nous battre toujours nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'un conflit ? Eh bien, le conflit émane d'un désaccord. Et au lieu de réussir à se comprendre, à se parler, eh bien, les protagonistes entrent dans un rapport de force. Un des protagonistes, peut-être même les deux, vont chercher à vouloir s'imposer. Ils veulent faire reconnaître leurs droits. Prenez l'exemple de bruit de voisinage, par exemple. Eh bien, je vais revendiquer mon droit de pouvoir dormir, j'ai besoin de dormir. Pour un autre, ce sera peut-être le besoin de pouvoir s'organiser comme il veut. Un autre, le droit d'être reconnu. Un autre aura le besoin d'être admiré. Un autre encore va se sentir laissé pour compte et il va dire « j'ai besoin d'exister ». Et quand c'est comme ça, le conflit peut s'aggraver. Et au lieu de simplement considérer le problème, par exemple le bruit de voisinage qui m'empêche de dormir, le problème n'est plus le bruit, mais ça devient le voisin. C'est la personne qui devient le problème et non plus le problème lui-même. Nous mettons l'autre en cause, on commence à l'attaquer dans sa personne, dans sa dignité. On peut en venir à employer un langage fleuri, diaboliser peut-être son adversaire, le réifier, c'est-à-dire l'ignorer en disant « celui-là, je ne vais plus lui parler. Il n'est pas digne que je lui adresse encore la parole. » Et que va-t-il se passer alors? Ben, l'autre, assez naturellement, va me dire ben, « il ne me parle plus, je ne lui parle plus non plus. » En fait, dès l'instant où vous mettez deux personnes ensemble, il y aura tôt ou tard des conflits qui vont surgir. La question n'est pas de ne pas avoir de conflits, la question est de savoir comment nous les gérons. La Bible nous présente beaucoup de conflits. Prenez l'exemple de Caïn et d'Abel. Caïn tue son frère Abel. Voyez Jacob qui trompe Ésaü. Il lui vole son droit d'aînesse. Et voyez toutes les conséquences qu'entraîne ce mensonge. Voyez Joseph qui est pris comme bouc émissaire par ses frères. Et regardez combien d'années il a fallu pour que le processus de réconciliation puisse avoir lieu. Regardez le roi Saül avec David. Il cherche à le tuer. Mais voyez aussi l'attitude de David qui, au lieu d'exploiter les faiblesses de son adversaire, va protéger son adversaire. Voyez la femme adultère dans le Nouveau Testament qui est prise en flagrant délit comme un gibier qu'on attrape sur le vif. On la jette sur la scène publique. Mais voyez aussi comment Jésus va la délivrer. Et comment il traite le conflit. Il va laisser les adversaires de cette femme s'en aller sans perdre la face. Voyez le conflit qui éclate dans l'église primitive entre les apôtres au moment où il y a la conférence de Jérusalem, acte 15. Et voyez comment Jacques, le même qui nous parle dans cette épître, va réussir à faire émerger un compromis acceptable et qui va être accepté par tout le monde. Et chacun va faire une concession vers l'autre. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc la Bible ne cache pas les conflits. Elle ne dit pas que tout ira toujours bien parce que nous sommes croyants. Dès l'instant où on met des personnes ensemble, il y aura toujours, à un moment donné ou à un autre, la nécessité de résoudre des problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Nous avons des personnalités différentes. Et ce n'est pas un problème d'être différent. Dieu nous a voulu comme cela, c'est une vraie richesse. Mais la question, c'est de savoir comment vivre ensemble avec nos différences, avec toute cette diversité. Comment vivre ensemble avec nos différences et pas malgré nos différences. Et pour que l'on puisse repérer ces fonctionnements différents que nous pouvons avoir entre nous, eh bien, j'aimerais regarder avec vous un petit schéma. Un petit schéma qui montre quatre types de personnalités. Quatre manières de réagir dans les conflits. Parce que nos personnalités font que nous réagissons pas de manière similaire dans les conflits. On a sur ce schéma, est-ce qu'il apparaît pas encore, mais on peut voir des personnes qui réagissent en s'affirmant fortement. Ce sera l'axe vertical sur mon schéma. Elles vont chercher à atteindre des objectifs, elles vont chercher à atteindre toujours le but, et elles vont s'affirmer pour arriver au but. Et vous verrez un autre type de personnalité qui, lui, va tout faire pour privilégier la relation, le contact, pour pouvoir préserver le lien qui existe. Et si l'on regroupe ces quatre personnalités dans ce tableau, eh bien, nous allons voir qu'il y en a un type de personnalité je vais prendre des noms d'animaux, ça va vous aider, qu'on peut appeler les requins. Les requins, ce sont des gens qui sont passionnés, des gens qui sont fortement tournés vers l'action. Quand vous les mettez dans un groupe, ils sont moteurs, c'est eux qui font avancer les choses. Et ce qui compte pour eux, eh bien, c'est d'atteindre l'objectif. Mais sur le plan relationnel, ils sont plus faibles. Généralement, ces personnes-là vont pas hésiter à s'imposer, à imposer leur point de vue, même si c'est au détriment de la relation avec l'autre. Parfois, ils sont autoritaires. Pour eux, ce qui compte, c'est de rechercher la vérité. La vérité, c'est important. Mais quelle vérité ? La leur. La vérité des autres, elle ne peut être que fausse. C'est des gens qui sont souvent dans le noir et le blanc. Ils connaissent bien les normes, les statuts. Et si on leur demande « Toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Ils risquent de répondre « Mais écoute, c'est la deuxième fois qu'on en parle, c'est pas encore clair pour toi ?» Ce sont des gens qui peuvent être brillants sur le plan de la parole, sur l'emploi des mots, et en même temps des gens qui parfois peuvent se montrer très impulsifs, très émotifs, se fâcher parce qu'ils ont l'impression qu'on piétine dans le groupe, qu'on n'avance pas, alors que c'est simplement les autres qui n'arrivent pas à suivre le rythme effréné de ce leader. Un deuxième style, c'est le style nounours. Le nounours, c'est le gars ou la fille accommodante. Quelqu'un qui est avant tout soucieux de préserver le lien. Prêt à tout pour jamais endommager la relation. On va céder. Tu vas aller au restaurant ce soir, ma chérie ? J'aimerais bien aller dans cette pizzeria. Ah oui, ça, pas de problème. Alors que l'épouse pense à autre chose, elle aurait voulu autre chose. Mais elle ne va pas contester, elle va dire oui. Le nounours est prêt à se sacrifier pour les autres. Au point où, à un moment donné, il sait presque plus qui il est lui-même. Malgré tout, il a besoin d'exister. Il a besoin d'avoir une place. La devise du nounours serait un peu « On fait ce que tu veux du moment où on peut être ensemble. » Dans les familles, il y a beaucoup de couples requins-nounours. Mais le requin, c'est pas toujours l'homme. Il y a un troisième style qui est le style tortue. La tortue n'aime pas le conflit. Elle se réfugie dans sa carapace. Elle cherche à fuir. Elle est dans un tempo très différent de celui des requins. Pour que la tortue puisse répondre, il faut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour l'écouter. Pour peut-être qu'elle s'exprime à la fin. Mais c'est quelqu'un qui a une vie intérieure très riche. Quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui analyse tout, mais qui vit seul, qui partage pas tellement son intériorité. La tortue, elle n'aime pas qu'on l'enferme dans un moule. Elle a besoin de garder son espace vital. Elle a besoin d'être aimée pour ce qu'elle est. Son côté négatif, c'est qu'elle aura facilement tendance à se sentir victime. Elle pourrait dire « Fais ce que tu veux, moi de mon côté, je vais faire ce que je veux, de toute façon personne ne m'aime. » Il y a un quatrième type, c'est la chouette. Ce n'est pas un type inné, mais ça relève plutôt de qualités acquises par l'expérience, ce qui montre qu'on peut évoluer dans notre manière de réagir. Les chouettes sont portées sur la collaboration. Elles sont conscientes que l'autre existe et elles vont chercher à lui faire une place. L'idée, c'est d'arriver à un résultat ensemble. L'idéal des chouettes, c'est de pouvoir trouver une solution commune, malgré les divergences de départ. La chouette est toujours intéressée par comment. Comment va-t-on faire pour résoudre ce conflit ? Elle va prendre le temps de la réflexion. Et elle va chercher à agir au mieux. Elle va être exigeante avec elle-même et exigeante avec les autres. Elle va dire quelque chose du style « Nous sommes tous dans le même bain. Moi, je m'affirme, mais je veux aussi que tu puisses t'affirmer. » La chouette est quelqu'un qui possède un savoir-être et un savoir-faire important, qui l'aide aussi à résoudre les situations de conflit. Alors, vous êtes reconnu peut-être dans l'un ou l'autre style, qui est bien sûr très schématique, mais, ou bien peut-être avez-vous reconnu quelqu'un dans un de ces styles. Il n'y a pas un style qui serait bon et les autres mauvais. Il n'y a pas un style qui serait idéal dans toutes les situations. Le style chouette semble souvent le plus adéquat, mais il y a des situations où on doit être requin parce qu'il faut impérativement prendre une décision, même si elle est un peu forcée. Dans un autre cas, par exemple, si je me fais bousculer dans le train, ce sera peut-être plus sage que je me comporte en tortue et puis que j'évite la confrontation. Dans d'autres cas encore, il vaudra peut-être mieux être nounours et chercher à valoriser l'autre, quitte à ce que je me sacrifie moi-même. On peut passer en fonction des situations d'un style à l'autre. Mais ce qu'on remarque, c'est que plus le stress est élevé dans une situation de conflit, plus on va revenir à son profil naturel. Donc c'est important d'apprendre à se connaître. Ça permettra de voir aussi comment nous allons réagir en situation de stress. Ça nous permettra aussi de comprendre comment les autres réagissent et pourquoi ils réagissent de la manière dont ils réagissent. Le Seigneur ne nous demande pas de changer de caractère. Notre caractère de base va rester. Mais le Seigneur nous demande de travailler sur notre caractère pour qu'on puisse éliminer les côtés néfastes, nuisibles, tout ce qui va altérer les relations interpersonnelles. Et cela, c'est le travail de sanctification. L'Esprit de Dieu veut nous transformer. Si on veut vivre en frère et en sœur, il ne s'agit pas d'éviter à tout prix le conflit. Parce que ça voudrait dire qu'on devient uniforme, qu'on renie la diversité. Il ne s'agit pas non plus d'occulter nos émotions, de garder un sourire forcé ou de rester à distance de la confrontation. Si on veut vraiment vivre en frère et en sœur, il s'agit d'apprendre à se dire les choses. Mais il y a des manières de dire, et cela peut s'apprendre. Il s'agit d'apprendre à faire des concessions, d'apprendre à se pardonner, à se réconcilier, comme on le fait finalement dans n'importe quelle famille qui fonctionne d'une manière saine. Jacques, je reviens à notre texte, Jacques nous enseigne à transformer le conflit en une source de grâce. Il ne nous donne pas une technique de résolution des conflits, et ce n'est pas que les techniques seraient mauvaises, beaucoup de ces techniques nous aident réellement. Mais Jacques va un peu plus loin. Il nous aide à descendre jusqu'à la racine du problème. Il va puiser dans nos motivations profondes. Il va s'intéresser à la source, à qu'est-ce qui me pousse à vouloir revendiquer tel droit. Et il va demander si ce qui me pousse est légitime. Est-ce qu'il est juste que je revendique un meilleur salaire? Est-ce qu'il est juste que je me batte pour telle idée? Est-ce qu'il est juste que je cherche à défendre mon identité si j'estime que je suis méprisé? Est-ce qu'il est juste de lutter pour un pouvoir que je sens menacé? Est-ce qu'il est juste de me battre pour une liberté qui semble compromise? Et comment est-ce que je vais réagir si je ne suis pas écouté dans ma revendication? Jusqu'où vais-je entrer dans un cycle de violence pour défendre mes droits, mes besoins, mes désirs? Le frère de Jésus nous invite à considérer la légitimité de nos besoins en regard de notre relation à Dieu. Qu'est-ce que je suis au fond en train de défendre quand la situation s'envenime? Quelle est ma hiérarchie des priorités? Quelles sont les valeurs qui me poussent? Jacques, en allant à la racine des problèmes, évoque plusieurs causes. La première, c'est l'égoïsme. Jacques évoque les plaisirs personnels que l'on cherche à assouvir. Ça, c'est de l'égoïsme. C'est le cas quand on se prend pour le centre du monde, qu'on ne cherche au bout du compte que son intérêt personnel, ou l'intérêt de sa famille, ou l'intérêt de son groupe. L'égoïste choisit ce qu'il envie, il ne se préoccupe pas de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Jacques ensuite évoque une deuxième cause à la racine des problèmes, c'est la jalousie. C'est un peu la réaction de l'enfant qui dit « Il a reçu une part plus grande de gâteau que moi, ça ne va pas, je veux aussi, moi, une part plus grande. » Et la jalousie conduit à l'agressivité. Et même au bout du compte, à désirer, peut-être que mentalement, mais à désirer la mort de l'autre. C'est pour ça que Jacques dit « Rempli de passions jalouses, vous assassinez. » Vous n'assassinez peut-être pas dans les fêtes, mais dans vos pensées, vous aimeriez bien que l'autre disparaisse. Le jaloux peut être agressif. Il va vouloir s'accaparer, se concentrer sur l'objet de sa jalousie, et pour cela, il peut être prêt à critiquer, dévaloriser, ironiser, mépriser. Vous assassinez, dit Jacques. Et pourtant, vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous n'obtenez pas. En fait, Jacques nous dit, vous ne faites qu'attiser les conflits avec votre manière de réagir, votre désir d'obtenir. Et vous allez rester frustré, devenir amer, développer de la colère. Pourquoi ? Parce qu'au fond, vos motivations ne sont pas saines. Au lieu de vous adresser à Dieu et de lui demander de vous donner ce qui réellement est bon pour vous, vous cherchez à obtenir par vos propres forces, par vos propres moyens. Jacques nomme une troisième racine. La racine à l'origine de tous les maux, l'orgueil. L'orgueilleux, il s'estime meilleur que les autres. Il a la conviction qu'il ne peut pas se tromper. Il cherche pour lui le plaisir, les honneurs. C'est lui qui décide ce qui est bon, ce qui est juste. Il se comporte finalement comme quelqu'un qui n'a pas besoin de Dieu, pas besoin que Dieu lui dise ce qui est bon, ce qui est juste. Il a lui-même sa propre autorité. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas remettre en question. Il trahit finalement ce contrat, cette alliance avec Dieu. C'est pour cela que Jacques dit « Vous êtes adultères ». Quand vous vous comportez comme des orgueilleux. Vous ne laissez plus Dieu diriger votre vie. Vous êtes comme une femme adultère qui s'en va avec un autre. Au lieu d'être avec moi, vous choisissez de mener la vie comme bon vous semble. Vous agissez seul avec vos propres armes. Vous êtes votre propre maître. Et Jacques termine en ayant évoqué ces trois causes, l'égoïsme, la jalousie, l'orgueil. Il termine en disant « Soumettez-vous à Dieu. Opposez-vous au diable. Et le diable fuira. Vous pourrez résister aux conflits. Mais pour résoudre vos conflits, dit Jacques, approchez-vous de Dieu. Et Dieu va venir à votre rencontre. Reconnaissez votre péché. Purifiez vos mains. Nettoyez votre cœur, âme partagée, dit Jacques. Pleurez sur vous-même. Prenez conscience de votre misère. Quelle misère ? Cette misère de ne pas me laisser transformer par la gloire de Jésus-Christ. Cette misère intérieure qui vient de mes peurs intérieures, de l'agressivité que j'ai peut-être au fond de moi et qui détruit les autres, de mes frustrations qui viennent parfois de désirs qui sont mauvais, qui sont mal placés. Cette misère intérieure, c'est peut-être aussi celle d'une image de moi-même qui est abîmée, détruite, blessée, et du coup qui m'amène à lutter, à me défendre, au lieu de simplement laisser Christ agir, au lieu de laisser Christ venir me guérir dans mes blessures intérieures. C'est comme si Jacques disait, prenez conscience de votre rigidité, de votre
propension à ne voir les choses que par le prisme de vous-même, par vos préjugés qui déforment l'image que vous avez des autres. Et Jacques dit, abaissez-vous vous-même, soyez humble, et Dieu vous élèvera. Il vous accordera sa grâce. Quelle grâce ? La grâce d'entrer dans des relations nouvelles, des relations plus justes, plus apaisées, où il est possible de vivre le pardon et la réconciliation. Et si nous devions chercher un modèle qui nous montre la voie, ce sera le modèle de Jésus. Jésus qui a su rester parfaitement juste, qui ne s'est pas écrasé devant les autres, même s'il est allé jusqu'au sacrifice de sa vie. Jésus qui n'a pas nié ses propres besoins, mais qui les a subordonnés à la volonté de Dieu. Jésus qui a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors suivons Jésus, soumettons-nous à Dieu et recevons sa paix. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.